Le journal avec vous, Valentin Bertrand, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. 24 heures après l'attaque iranienne contre Israël, le risque d'escalade est dans tous les esprits. À commencer par le cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Il s'est réuni durant de longues heures hier. Alors réponse militaire ou diplomatique, nous ferons le point.
Manger des feuilles et ronger des troncs d'arbres, c'est le dernier recours pour les Soudanais gagnés par la famine après un an de conflit. Témoignage dans ce journal.
Duel à distance ce week-end entre les candidats de gauche aux européennes. L'écologiste Marie Toussaint a voulu marquer sa différence sur la question écologique avec la liste PS Place Publique. Elsa Mana, votre question du jour.
MeToo à l'hôpital, quel traitement après le diagnostic? Et Elsa Mana, c'est l'invité.
Ce sera juste après ce journal. Y aura-t-il une riposte israélienne? C'est la question, objet de toutes les tractations après l'attaque menée dans la nuit de samedi à dimanche par les Iraniens. Plus de 300 drones et missiles balistiques ont été envoyés. La plupart ont été interceptés par l'armée israélienne et ses alliés. Mais cette première attaque frontale de l'Iran fait craindre l'ouverture d'un nouveau front. Les États-Unis tentent de décourager l'État hébreu de répondre par les armes. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a lui convoqué hier son cabinet de guerre, Thibault Lefebvre.
Deux camps s'opposent dans le gouvernement israélien. D'un côté, les bellicistes, les partisans d'une ligne dure, l'extrême droite sioniste et religieuse favorable à une réponse forte et immédiate de l'armée, et puis les défenseurs d'une stratégie plus mesurée, comme l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. C'est un des rares ministres à s'être exprimé publiquement hier pour une réplique, mais à condition qu'Israël rassemble autour de lui une coalition. Les désaccords portent donc sur le calendrier et la méthode, et au milieu, il y a le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a échangé avec le président américain Joe Biden, qui a assuré qu'il ne le soutiendrait pas en cas de réponse immédiate. Et puis Israël a d'autres priorités, à Gaza notamment, où deux brigades de réservistes ont été mobilisées hier pour continuer à débusquer les leaders du Hamas et chercher les otages. L'organisation islamiste a envoyé à l'État hébreu une nouvelle proposition d'accord. Elle porte sur un échange d'otages et de prisonniers et un cessez-le-feu de 42 jours.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial permanent de Radio France à Jérusalem. Depuis cette attaque, les prises de parole devant l'ONU tournent aux accusations croisées. Israël réclame toutes les sanctions possibles. Les Iraniens, eux, disent n'avoir pas eu d'autre choix que l'autodéfense après une frappe contre son consulat à Damas, en Syrie, au début du mois. Ces divisions internationales, elles se retrouvent aussi au sein de la population iranienne, avec d'un côté les soutiens du régime qui applaudissent, et de l'autre, l'opposition réduite au silence, mais qui craint que le pays ne soit entraîné dans la guerre. Notre correspondant sur place, Noé Pignède, a pu recueillir le témoignage d'Iraniens. Leur voix et leurs prénoms ont été modifiés pour leur sécurité.
Sur les réseaux sociaux, des vidéos de scènes de liesse tournées ce week-end en Iran. On y voit quelques centaines de personnes qui fêtent la riposte iranienne contre Israël, des jeunes payés par le régime pour descendre dans les rues selon Omid, la trentaine. Lui milite contre la République islamique.
Pratiquement aucun Iranien n'est pour cette attaque contre Israël. Pour être honnête, la plupart des gens avec qui je parle soutiennent même plutôt Israël lorsqu'il attaque les gardiens de la Révolution.
Mais Omid craint maintenant que les Occidentaux renforcent encore leurs sanctions contre son pays.
Nous souffrons déjà de la crise économique. Les pays européens pensent que les sanctions affaiblissent notre gouvernement. C'est stupide, c'est seulement la population qui en paye le prix.
Certains Iraniens craignent aussi le retour de la guerre. Mojdeh, 75 ans, reste traumatisé du conflit contre l'Irak dans les années 80. Il avait fait près d'un million de morts.
La guerre n'apporte que la destruction, la misère, des blessés et des réfugiés. Je me souviens encore de la détresse des gens pendant les attaques. Les nuits sans dormir, la peur des bombardements. Personne ne veut d'une nouvelle guerre.
Et les Iraniens s'inquiètent maintenant de la riposte israélienne et du nouveau cycle de représailles qu'elle entraînera dans la région.
Dans ce contexte inflammable et alors que la Pâque juive débute dans une semaine, Gérald Darmanin demande à tous les préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs et les écoles confessionnelles. Le ministre de l'Intérieur demande également des patrouilles régulières aux abords des magasins cachers.
À partir d'aujourd'hui, la France accueille une conférence sur l'aide humanitaire internationale consacrée au Soudan.
Des ministres et des représentants régionaux pour attirer l'attention sur ce conflit oublié. Un an, jour pour jour après le début de la lutte armée entre deux généraux de guerre pour le pouvoir, les enjeux internationaux sont revenus juste avant ce journal sur le contexte du conflit. Nous nous intéressons à présent à ses conséquences, des milliers de morts, 8 millions de déplacés est l'une des pires crises humanitaires au monde. Selon l'ONU, le pays frôle aujourd'hui la famine. Ceux qu'ils peuvent cherchent donc à fuir direction le Tchad, où arrivent encore chaque jour des Soudanais à bout de force, comme l'a constaté notre correspondant Carole Valade.
Un vent sec et brûlant balaye le poste frontière d'Adré. Durant près de 400 km, Assar Ismail a guidé son père, aveugle, depuis la ville de Niala, au Darfour.
À Niala, la vie n'est plus possible. Les gens ont tout perdu, ils souffrent terriblement. Les gens ont faim et ils ont besoin d'aide internationale. Que n'importe qui leur vienne en aide, les gens souffrent tellement là-bas.
Charline Petitjean, coordinatrice urgence pour l'ONG Solidarité Internationale, nous a fait parfvenir son témoignage depuis la ville d'El Fasher, théâtre de combats intenses et de violents bombardements.
Actuellement, on a des témoignages dans les camps de personnes qui commencent à manger des feuilles et ronger des troncs d'arbres pour essayer de se remplir l'estomac. Et nous pourrions voir dans quelques semaines beaucoup de décès liés à cela.
Dans le camp de Zamzam, un enfant meurt toutes les deux heures. Alerte Médecins Sans Frontières, qui côté tchadien traite des cas de malnutrition chaque jour plus nombreux. Docteur Sostem Bayas Rassem.
Au début de la crise, nous recevrons beaucoup plus de patients blessés par balles, mais ici dans ce service, c'est beaucoup plus les patients souffrant essentiellement d'une malnutrition.
L'ONG s'attend à recevoir encore plus de patients, car durant plusieurs semaines, les belligérants ont interdit au convoi du Programme Alimentaire Mondial de traverser la frontière.
Notre correspondant au Tchad, Carole Valade. Pour la première fois, un ancien président américain s'assiera sur le banc des accusés dans un tribunal de New York. Ouverture aujourd'hui du procès pénal de Donald Trump, candidat pour le prochain scrutin présidentiel. Le scrutin comparé à Manhattan pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels. Il risque en théorie une peine de prison, mais cela ne l'empêchera pas d'être candidat.
France Culture, il est 7h07, la suite du journal de Valentin Bertrand. Et à moins de deux mois des élections européennes, le tempo de la campagne s'accélère.
Succession de meetings, oui, ce week-end, avec un duel à distance entre Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint sur la question écologique. Le candidat tête de liste Place Publique PS était à Nantes samedi, où il a défendu l'idée d'une révolution écologique européenne, avec notamment le pacte vert. L'écologiste, elle, a voulu se démarquer hier soir lors d'une réunion publique à Paris, avec un discours très offensif, Sophie Delpont.
Sur l'estrade, Marie Toussaint lance un appel à la mobilisation.
Au combat, camarades, au combat. Alors nous allons tenir bon. Et oui, nous allons aller chercher un bon score avec les dents. Parce que le climat ne peut pas souffrir d'attendre 5 ans de plus.
La tête de liste écologiste répète le mot combativité après avoir reconnu les difficultés rencontrées dans la campagne.
Nous avons donc un devoir d'excellence pour sortir de la mauvaise passe que nous traversons.
Marie Toussaint attaque ensuite Raphaël Glucksmann, candidat tête de liste Place Publique PS, qui a présenté la veille ses mesures pour une révolution écologique européenne.
Le risque, c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande. Attention à la publicité mensongère. Lisez bien les petits caractères en bas du contrat.
Elle met en avant les axes du programme des écologistes.
Votez pour nous! C'est voter pour une Europe du climat qui vise le 100% renouvelable avec un fonds souverain et se donne les moyens d'agir avec un ISF climatique à Bruxelles comme à Paris.
Parmi ses colistiers en 10e position, Amine Kessassi, 20 ans, est originaire d'un quartier populaire de Marseille. Il espère mobiliser les abstentionnistes.
Ce qu'on va leur dire, c'est que un, l'Europe elle peut nous aider, que ce soit à travers de la lutte contre la précarité alimentaire, redonner des moyens à la banque alimentaire, et aussi au travers de rénovation thermique des bâtiments. Et si on chauffe moins, bah, du coup les gens ils vont avoir des sous en moins à déverser dans leurs factures.
Les écologistes qui ont validé leur liste ce week-end, avec parmi les figures en place non éligibles, notamment Yannick Jadot, qui avait obtenu 13,5% des suffrages aux précédentes élections européennes.
L'autre donnée importante du scrutin du 9 juin prochain, ce sera la participation. Elle est généralement bien inférieure aux autres élections locales ou nationales, mais en 2019, cette participation avait atteint un record avec 51% de votants en France, soit une progression de 8 points comparée à 2014. Un intérêt qui pourrait se renouveler cette année sous l'effet des multiples crises du moment, d'après Thierry Chopin. Il est conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et professeur invité au Collège de l'Europe à Bruges, en Belgique.
Depuis la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct en 1979 et jusqu'en 2019, élection 2019 exclue, ce qu'on a vu, c'est une baisse graduelle de la participation électorale, avec évidemment des conséquences négatives sur la légitimité de cette institution. Ce qu'on a vu malgré tout à partir de 2019, lors des élections européennes de 2019, c'est une augmentation sensible, plus 8 points de participation, augmentation de la participation électorale dans 19 États membres sur 27. Ce qu'on voit, ce qu'on peut dire, compte tenu de ce qu'on lit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, visiblement, les citoyens, en tout cas interrogés dans ces enquêtes, expriment en fait un intérêt qui est accru pour les prochaines élections européennes. Plus fort même, a priori, qu'en 2019. Et ça, je pense que ça peut s'expliquer par, disons, deux raisons majeures. Il y a un effet des crises récentes, notamment la pandémie, l'impact des crises géopolitiques avec l'invasion russe en Ukraine, la crise énergétique. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure ces élections européennes de juin prochain pourraient ou pas se caractériser à nouveau, finalement, par un accroissement de cette participation électorale.
Jacques Delors, professeur invité au Collège de l'Europe à Bruges, en Belgique.
C'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'incendie dévastateur de Notre-Dame de Paris.
Et après l'émotion, l'heure est maintenant au compte à rebours avant la réouverture de la cathédrale. La reconstruction de la flèche et du transept est achevée. D'ici l'ouverture des portes au public, le 7 décembre prochain, il reste notamment à harmoniser le grand orgue. L'instrument miraculé des flammes a retrouvé sa place depuis quelques semaines. Et désormais, 4 organistes se succèdent. Parmi eux, Olivier Latry, il est professeur au Conservatoire de Paris.
Tout l'aspect mécanique fonctionne, mais il y a un tuyau par-ci, par-là, et maintenant, le rôle du facteur d'orgue est de faire parler les 8000 tuyaux, et ça prend excessivement de temps, parce qu'il faut les mettre en harmonie les uns avec les autres, les égaliser, et c'est un travail énorme, donc c'est pour ça que ça prend entre 5 et 6 mois. C'est un instrument transcendant, sur un plan historique, puisqu'il a vécu des restaurations permanentes depuis le début du XVIIe siècle, environ tous les 30 ans, et à chaque fois, les facteurs d'orgue ont gardé ce que les prédécesseurs avaient fait, tout en apportant leur âme. Il n'y a pas eu de problème majeur dans le grand orgue. L'orgue de chœur, lui, par contre, a été complètement détruit, notamment par l'eau des pompiers. Ça aurait pu se passer aussi au grand orgue. Et l'orgue aurait pu brûler, et ça ne s'est pas produit. Et les tuyaux en métal auraient pu fondre, et ça ne s'est pas produit non plus. Donc l'orgue est un miraculé, et tant mieux. Donc en fait, il n'y a pas eu de dégâts profonds, hormis la poussière de plomb qui s'est évidemment déposée partout. Je pense que la réverbération restera la même. On a à peu près 7 secondes de réverbération dans la cathédrale. Mais par contre, le son risque d'être un tout petit peu plus claquant que ce qu'il était quand on l'a connu jusqu'en 2019, par rapport au fait que la pierre sera propre, mais ça va vite revenir comme ça. Avec 13 millions de touristes par an et la poussière ambiante, il est clair que l'orgue va ressonner de la même manière en l'espace de quelques mois ou d'une ou deux années.
L'organiste Olivier Latry, interrogé par Constance Strebel. La météo avec une vigilance orange au vent violent sur le nord, la Somme et le Pas-de-Calais. L'alerte entrera en vigueur à midi avec des rafales attendues jusqu'à 110 km/h. Du vent accompagné d'averses sur une grande moitié nord. Les pluies arrivent ce matin par la Normandie et se décalent au fil de la journée. Le ciel restera dégagé au sud avec une alternance de nuages sur la Nouvelle-Aquitaine. Les températures ce matin de 6 à 13 en général et cet après-midi de 12 à 17 degrés au nord, de 16 à 22 au sud et jusqu'à 28 au bord de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et c'est à vous quant à la fée.
Merci beaucoup Valentin Bertrand. Et à suivre la question du jour, Marguerite Caton, MeToo à l'hôpital après le diagnostic, quelle thérapie ?